Alors, Dominique.
Alors, il y a ces rodéos, vous avez vu, il y a eu des rodéos le week-end dernier. C'est fou, hein, c'est fou. Alors, il y a eu deux enfants blessés grièvement. Il y a un garçon de 14 ans qui est mort à Bordeaux, je crois bien. Alors, monsieur Darmanin.
On a l'impression que c'est pratiquement tous les jours maintenant.
Mais c'est tous les jours. C'est absolument tous les jours dans certains endroits. Et monsieur Darmanin, qui était en déplacement en Marseille, a dit qu'il allait faire 10 000 contrôles. Enfin, le chef de dit il faut bien lancer quelque chose. 10 000, pourquoi pas 11 000, pourquoi pas 8 000, enfin, 10 000 contrôles, tout ça. Et il a parlé d'actes criminels en parlant des rodéos. Alors, c'est toujours très curieux que ce soit des actes irresponsables, très dangereux. Très périlleux, pas réfléchi, c'est pas criminel.
Non, mais qu'il leur fasse des terrains, oui, des terrains de rodéo.
On peut faire ça, on peut imaginer ça. Mais les terrains de rodéo, c'est monsieur le gouvernement et monsieur Darmanin qui vont décider ça, et puis c'est les collectivités locales qui vont être obligées de mettre le pognon pour faire les terrains. Voilà, parce que c'est toujours ça l'État en ce moment. C'est jeudi, puis après je laisse le bâton merdeux aux collectivités territoriales et locales, et qu'elles se débrouillent et qu'elles financent. Voilà. Donc il a parlé. Je reviens sur le terme de criminel. C'est quand même un peu excessif. Criminel, dans criminel, il y a une intention. Les gamins qui vont faire du rodéo, ils n'ont pas intention de tuer deux gamins ou de mourir. Enfin, vous voyez, c'est toujours un petit peu dans l'hyperbole, dans le discours pour faire le buzz et tout ça. On voudrait plus de sérieux de la part d'un ministre de l'Intérieur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ces rodéos? C'est-à-dire, évidemment, faire des espaces qui leur soient consacrés, dédiés, comme on dit aujourd'hui, et tout ce qui se passe en dehors. Alors là, c'est sévèrement puni.
Allez hop.
C'est sévèrement puni.
On retire la mobylette ou le...
On confisque la mobylette, on l'incarcère.
Ou la moto.
Et encore, je reviens à ma marotte, qui me vaut d'ailleurs beaucoup de compliments. Je tiens à le signaler. Quand le gosse, il a 12 ans, il a 13 ans, il a 14 ans, on va chercher son géniteur. On va chercher le mec qui a semé la petite graine et lui dire, Coco, c'est toi qui vas te taper les amendes, c'est toi qui vas te taper le travail d'intérêt général, c'est toi qui vas te trouver l'opprobre et la honte. Voilà. Parce que, et puis alors, si une fois qu'il aura bien eu la honte, le père, le géniteur, ben je peux vous dire qu'il va mettre deux calottes à son fils pour l'empêcher de recommencer ses conneries. Parce que c'est comme ça que ça va fonctionner. Mais on va pas chercher. Donc il est mineur, donc on peut pas. Donc on peut pas. Voilà. On organise la société autour de comment faire pour ne avoir une excuse de ne pas pouvoir. Voilà.
Hein. Oui, mais comme vous avez des allocations mère célibataire, il y a plein de femmes, je pense, qui se déclarent mères célibataires, elles ont une allocation beaucoup plus importante pour élever l'enfant.
Ah, mais ça, c'est l'autre problème. C'est le problème du contrôle des CAF et des choses comme ça.
Ouais.
Mères monoparentales qui cachent aussi une certaine forme de polygamie.
Polygamie.
Voilà, tout ça. Mais ça, c'est le problème de la fraude. Voilà. Donc tout ça, faudrait quand même un petit peu de vigueur dans la chasse à tout ce qui pèse, à tout ce qui coûte et à tout ce qui pollue et la vie des Français. Mais le petit garçon de 14 ans là qui est mort, c'est très grave, c'est triste. C'est triste. Mais il y en a d'autres de 13, 12, 13 ans, 14 ans, 15 ans qui font du rodéo. Eh bien, quand ils sont pris, c'est le géniteur qu'on va chercher. Où qu'il soit, il ne peut pas s'abriter. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment qu'on aille très très loin dans la responsabilité du fait d'avoir mis sa petite graine pour qu'il y ait des enfants. Il faut aller très très loin là-dedans. C'est la reprise en main qui est absolument nécessaire. La reprise en main qui est absolument nécessaire. Voilà. Je pense que c'est ça. Et alors, vous avez vu, quand même. Alors, il y a aussi je crois que c'est à Villeneuve-Saint-Georges, un monsieur qui, en pleine rue, a été assassiné à coups de couteau. À coups de couteau. Alors, par un Afghan, on nous dit qu'il est dérangé, qu'il a des problèmes psychiatriques.
Il y en a beaucoup. Hein.
Voilà. Mais non, mais...
Il y en a beaucoup en France.
Mais je vais reprendre ce que j'ai déjà dit ici. Mais en quoi c'est surprenant que ces gens-là aient des problèmes psychologiques? Ils sont déracinés, les migrants. Ils quittent un continent une forme de vie, des habitudes, des contacts, des choses, tout est nouveau, et incompréhensible largement pour eux, puisqu'ils ne comprennent pas la langue, ils ne comprennent pas la manière de vivre, ils sont complètement déracinés. Donc psychologiquement, c'est un traumatisme considérable, et que ce traumatisme, dans une part relativement importante de ces gens-là, crée du déséquilibre psychique, des problèmes, des vrais problèmes psychologique avec des pathologies, ça n'est pas surprenant. Donc tous les gens qui encouragent l'immigration devraient mettre ça, ce paramètre-là, dans leurs préoccupations. Et on devrait cesser de dire « Ah ben oui, mais non, c'est pas parce qu'il est migrant, c'est parce qu'il a des problèmes psychologiques. Hein » C'est ça qu'on nous vend. Non, il est pas bien dans sa tête. Faut oublier le fait qu'il soit un migrant, qu'il soit afghan, mais c'est parce qu'il est pas bien dans sa tête. Sous-entendu, il pourrait être pas bien dans sa tête, il est totalement français depuis 14 générations. C'est ça qu'on nous vend. Mais c'est pas vrai, c'est parce que le fait d'être un migrant est un traumatisme d'abord considérable et que ça peut générer des troubles psychologiques qui amènent ce genre de comportement. C'est ça le diagnostic courageux qu'il faut faire. Donc c'est très très important. Alors soit on décide que tout migrant qui met le pied en France est le bienvenu et qu'il a droit à un soutien psychologique qui évitera qu'il subisse ce traumatisme de plein fouet. On n'en a pas les moyens, on n'a pas la possibilité ni en homme, ni en argent, ni en personnel, ni en quoi que ce soit. Soit on décide de dire, attendez, c'est tellement dangereux qu'il va falloir prendre cette affaire de l'immigration en main, hein. Qu'on commence par faire des lois simples. La loi la plus simple à faire, c'est de faire une loi sur des quotas, et des quotas extrêmement rigoureux, extrêmement serrés. Parce qu'une fois que le quota est dépassé, on n'a plus besoin de passer par le judiciaire pour expulser les gens ou pour ne pas les recevoir. Vous comprenez? Il y a le quota, il y a la loi du quota.
Vous êtes mignon, Dominique. Ah non, avec votre quota, vous êtes mignon. Monsieur. Le quota n'existe qu'en agriculture.
Non, mais il faudrait...
C'est pas... Mais c'est impossible. Impossible, Dominique.
Vous croyez?
Mais bien sûr.
Bah, je crois qu'il est... Impossible n'est
vous
pas français.
Mignon, ouais, vous êtes mignon.
Bah, c'est, j'adore quand Fabienne me dit « je suis mignon ». Moi, je traduis dans ma tête, vous êtes un petit peu couillon, Dominique.
Non, mais vous avez encore le droit d'y croire. Mais moi, je n'y crois plus.
Mais non, mais il faut en parler. Faut remettre.
Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire
en permanence?
Qu'est-ce que vous voulez faire, Dominique? C'est pas possible. Tout le monde veut accueillir des migrants, mais quand vous les voyez au bord de partout, au bord des routes, dans des camps de migrants, etc., c'est horrible. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent de leur journée?
Eh ben, ils finissent par avoir de vrais problèmes psychologiques. C'est désastreux, c'est un désastre pour eux.
Alors moi, je veux bien l'immigration, je veux bien. Venez tous en France.
Ah non.
Mais venez tous dans des conditions. Incroyable, soyez accueillis dans des maisons, dans des logements et travaillez tous. Voilà. Voilà comment je la vois, l'immigration.
Oui.
Mais pas les accueillir comme ça sous des tentes, sous des camps. Enfin, c'est horrible, horrible.
C'est un problème. Alors, j'entendais l'autre jour quelqu'un qui débattait, qui disait « je suis pour l'intégration et surtout pas pour l'assimilation ». On voit bien ce qu'il y a derrière, quoi. C'est-à-dire l'assimilation, ce serait reconnaître et épouser notre civilisation. Donc ça, ils n'en veulent pas. Mmh. Celui-là n'en veut pas. Mais on exigeait l'assimilation autrefois. Et on l'exigeait à un très haut niveau. Je vais vous donner un petit exemple historique qui, pour moi, est parlant. C'est-à-dire que quand Marie-Antoinette d'Autriche, qui à l'époque a 14 ou 15 ans, vient en France pour épouser le futur Louis XVI, le dauphin, le futur Louis XVI. Elle est autrichienne, bien évidemment. Hein ? On pourrait dire, bon, elle est là pour épouser le roi, elle vient, elle arrive, elle reste autrichienne. Finalement, ce qui compte, c'est la dynastie. Hein, c'est l'entre-soi aristocratique, noble, et puis qu'elle soit plus ou moins française, ça compte pas. On pourrait raisonner comme ça. Pas du tout. On lui a imposé quelque chose d'extraordinaire sur le plan de l'assimilation. Quand on l'a amenée en France, elle a traversé le Rhin. On a fait en sorte qu'elle s'arrête à la frontière sur une île au milieu du Rhin. Et là, on avait construit une espèce de cabane en bois, où on l'a fait passer par cette cabane en bois, où on dit arrête, et là elle doit se débarrasser de tout ce qui était en elle autrichien, c'est-à-dire les bijoux qu'elle porte, les vêtements qu'elle porte, tous les vêtements, pour mettre des vêtements français. C'est-à-dire, symboliquement, on lui dit, tu changes de peau. Tu dois t'assimiler aux Français, à la France. Donc, on lui change, y compris ses vêtements, ceux qui sont collés à son corps, on lui change tout, tout, tout. Dans une symbolique, dans une purification, dans une renaissance à son nouveau pays. Vous vous rendez compte, on exigeait ça de la future reine de France. Et quand elle arrive à Strasbourg, eh bien, il y a le représentant du roi qui veut faire son compliment à la jeune princesse. Elle a 15 ans, hein, à peine 15 ans. Oui, 15 ans. Et il commence son compliment en allemand. Et là, Marie-Antoinette l'arrête. Elle dit, non, monsieur, vous me parlez en français. Dorénavant, ma langue est le français. Voilà. Eh bien, ça, on l'exigeait d'une princesse future reine de France. Voilà, on devrait quand même se dire qu'à un moment, sous la monarchie, on était capable d'exiger ça. Et ça, on ne sait pas le faire aujourd'hui. On n'exige pas que les gens parlent la langue. On n'exige pas que les langues...
Si. Alors, ça existe, Dominique. Les gens qui, par exemple, moi j'ai l'exemple autour de moi, un cuisinier, il est en France depuis un certain temps, il a des contrôles régulièrement pour savoir s'il parle bien la langue française.
Ah oui, c'est bien.
Ouais.
Ben c'est bien.
Si, ça existe. Alors, je pense qu'ils choisissent leur cible.
Ben, c'est bien, en tout cas.
Là, c'est un Vietnamien. Je pense qu'on choisit là.
Ah oui. Ah ben, on choisit ceux qui veulent s'intégrer. ça, évidemment.
Les bosseurs.
Ben, voilà, les bosseurs.
Et ben, voilà, on revient toujours à la même chose, Dominique.
Voilà, ben oui. Voilà. Oui, bien sûr.
On se fait une pause.